بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم يا إخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا يا إخوة، الطفلة في الإسلام. Le colloque d'aujourd'hui a pour thème un thème qui est fort d'actualité, l'enfant, l'enfance, l'enfant en islam et bien sûr son éducation aux valeurs musulmanes et aux valeurs islamiques, qui sont celles bien sûr de Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La séance, malheureusement la séance d'aujourd'hui qui ne dure qu'une heure et demie, ne va pas nous permettre de voir l'ensemble des aspects de l'éducation des enfants. Il aurait fallu bien sûr pour ça, non pas une petite heure et demie, mais une ou deux, voire trois journées pédagogiques et éducatives pour les parents que nous sommes, pour les jeunes parents que nous sommes. Car comme disait une personne de mon entourage, nous sommes des enfants qui avons des enfants. Et dernier échoin, on va essayer de cerner l'enfant en islam et son éducation aux valeurs qui sont propres et spécifiques à la culture musulmane. Nous avons décidé ici de subdiviser ce thème en plusieurs parties. D'abord, quelle est l'importance du thème de l'éducation de l'enfant ? Donc on reviendra sur l'importance de ce thème et que c'est un thème bien sûr d'actualité, particulièrement dans ce pays Fidiyar al-Kufr. Deux, mafhoum al-tarbiyah, que signifie l'éducation ? 3. Mu'assasat tarbawiyya, les institutions éducatives. Car bien sûr, à côté du rôle des parents, à côté du rôle éducatif des parents, il y a un ensemble d'espaces où s'exerce l'éducation. 4. On va donner un petit mot sur l'enfant, sur le nouveau-né et sa maturation vers l'âge de l'adolescence. 5. La persévérance à l'éducation, al-hasr et al-ifit tarbiya. 6. Les droits des enfants et les domaines de son éducation, huquq al-abna wa jawanib tarbiya. 7. Nous allons donner un ensemble de conseils éducatifs aux parents, nasa'ih al-tarbawiya. Et à la fin, nous allons laisser une petite période pour les questions. 1. L'importance du thème. Alors l'importance du thème de l'enfant ne date pas d'aujourd'hui. Les hommes et les femmes, à toutes les époques et de tout temps, ont toujours mobilisé leur énergie, leur force, leur argent pour donner à leur enfant la meilleure éducation possible. Dans l'islam, plus que dans toute autre religion, le concept d'éducation a une place particulière. L'éducation en général et l'éducation des enfants en particulier est au centre de Risal, au centre du message d'Allah Azza wa Jal. Les prophètes d'ailleurs ont été envoyés pour une fonction particulière qui est celle que les ulama ont appelée At-Tasfiya wa At-Tarbiya. C'est-à-dire, At-Tasfiya, c'est en quelque sorte nettoyer, annuler du comportement des gens, des pratiques religieuses qu'ont les gens et des traditions et des coutumes qu'ont les gens, nettoyer la mécréance, toute la mécréance qui s'y trouve. Donc, l'Anbiya ou al-Rusul ont été envoyés pour une chose, c'est bien sûr présenter le message du Tawhid, al-Aqida al-Sahiha aux gens, et donc pour éduquer les peuples et les nations à cette notion. Bien sûr, pour leur apprendre aussi un ensemble de comportements, le licite, l'illicite, le bien et le mal, etc. Vous savez tous pourquoi les Anbiya ont été envoyés, bien évidemment. Donc, les prophètes ont été envoyés pour l'aqida sahiha, pour nous apprendre l'ahkam salima ou l'akhlaq tayyib. C'est ce qui forme, dans cet ensemble, la communauté musulmane. En ce qui concerne l'éducation en particulier des enfants, Al-Qur'an wa Sunna al-Mahfouda al-Sahiha sont remplis d'exhortations et de conseils à la bonne éducation. Allah Ta'ala, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Donc c'est les gens qui disent وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَا رَبَّ Fais que nos épouses et nos enfants soient un plaisir à nos yeux. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا رَبِّي هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا إِنَّكَ السَّمِيعُ الدُّعَاء. C'est l'invocation des vertueux qui disent يَا رَبَّ Accorde-moi une descendance pieuse. Une descendance pieuse car tu es celui qui entend les invocations. Et une dernière ayah, Ya Bunaya, kullukum ta'rifuna hadhihi al-ayah. Ya Bunaya, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Oh mon fils, Luqman qui dit à son fils, oh mon fils, ne m'associe personne, car l'association est al-kufr, ou ash-shirk, est une injustice des plus grandes. En ce qui concerne la sunnah sahiha, كلكم تعرفون الحديث المعروف على الصلاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع إلى آخر الحديث كلكم تعرفون هذا. Donc exhortez vos enfants à la prière alors qu'ils ont l'âge de 7 ans et donc le hadith qui exhorte aussi à les frapper à l'âge de 10 ans s'ils ne le font pas, donc à les sanctionner et etc. Notre grand avantage par rapport aux autres religions et aux autres cultures, entre guillemets, je parle de culture, la seule culture qui vaut c'est celle de l'islam, taban. Notre avantage c'est Muhammad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons en Muhammad, en notre prophète, un exemple vertueux et un modèle à suivre dans tous ses détails, dans tout ce qui est grand et petit. Wa laqad kana lakum fi rasulillah zid uswatun hasana. كذلك في التربية. Donc également dans l'éducation de nos enfants, nous avons en notre prophète un exemple des plus vertueux qu'il faut suivre évidemment. D'ailleurs, vous savez tous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute sa période mécoise, a donné tout son temps, 10 ans de sa période, à l'éducation de Sahaba. Donc il les a éduqués au tawhid, les a éduqués à la patience et à plusieurs vertus, de telle manière que lors de leur immigration vers Médine, ils ont accepté l'islam avec beaucoup de facilité. Donc, la manière dont nous pouvons nous interroger, nous pouvons nous renseigner sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons, qui eux-mêmes ont éduqué tabi'in, les suivants, est un modèle à suivre pour nous. Alors attention aux gens qui vous diront « Oui, mais ils ont leur époque et nous avons notre époque. » Hada sahih. Walakin ya ikhwa, il faut savoir que le message n'a pas changé. Le message d'Allah Azza wa Jal wa d'Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi tilka zaman wa fi hada zaman. Al-Qur'an huwa al-Qur'an wa sunnah hiya sunnah. Ce qui change, c'est les moyens. Les moyens pour présenter aux gens le Coran ou le Sunna, et pour éduquer les enfants change et varie suivant les époques, mais le fond, le message est tout à fait le même. Ça c'est une remarque qui est très importante et que chacun d'entre nous doit bien enregistrer. Donc il est primordial de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué sa nation. Alors la question qui se pose, c'est une question fondamentale: est-ce que nous suivons ce modèle éducatif? Est-ce que nous suivons ce modèle que nous expose la sunna du prophète? Bien évidemment, la réponse c'est clair, c'est non. Force est de constater aujourd'hui que la faillite quasi totale de l'éducation, dans l'éducation de nos enfants. À titre d'exemple, Mohamed wa Rachid wa Abdullah sont en prison pour trafic de drogue. Wa Rachida wa Naima. Rachida wa Naima sont mortes des causes d'un suicide. Abdussalam a pointé son armière contre son père et l'a menacé de mort. Nadia est rentrée hier à 4h du matin complètement saoule. Et qui la regarde? Son petit frère et sa petite sœur. Et les exemples sont nombreux. Wallah, les exemples sont nombreux. Ilallah al-Mushtaka. Le titre de la conférence est Ikhwa. L'enfant en islam. Hal hadu awlad al-islam. Est-ce que Mohammed wa Rashid wa Rashida wa Naima wa Abdus Salam wa Nadia sont les enfants de l'islam? Là, il y a Ikhwa, ce ne sont pas les enfants de l'islam. En tout cas, pas l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces enfants sont bien les enfants des musulmans, et ce sont bien des musulmans. Voilà qu'il y a Ikhwa. D'un islam que nous avons hérité de nos parents, d'un islam qu'on appelle un islam hybride, l'islam que nous avons hérité de nos parents, et pire encore, c'est un islam hérité de nos parents et qui a été raboté par notre implantation dans un pays comme celui-ci. Le fruit, en fait, de cet héritage, c'est Mohammed, Rachida, Abdussalam, Nadia, wa hakada. Et bien sûr, comme je viens de le dire, les exemples sont fort nombreux. Bien des familles sont touchées par ces malheurs. Et combien encore de familles seront touchées par ces malheurs? Peut-être parmi nous, il y a des familles qui sont touchées par cette détresse. Alors, les exemples fictifs, bien sûr, j'ai utilisé des noms fictifs. Les exemples fictifs que je viens de citer sont à peine caricaturales et marquent vraiment la détresse de nos enfants, la détresse des parents face à l'éducation de leurs enfants et vraiment le gâchis de vie et le gâchis d'énergie vis-à-vis des enfants. Alors, comment expliquer les causes de cette détresse de nos enfants? Alors, j'ai donné l'exemple de jeunes qui sont adolescents ici. Le titre, c'est l'enfant. Donc, mon but, c'est de montrer et de démontrer que tout ça, et tous ces problèmes, bien sûr, se succèdent de l'enfance, de la basse enfance, du nouveau-né, ça se succède jusqu'à arriver à ce gâchis total. Les causes, bien sûr, sont nombreuses pour analyser ces problèmes. La plus importante, tab'an, huwa taqsir fi at-tarbiya. Taqsir fi at-tarbiya. C'est la raison principale et la plus importante de cette dérive. Plus que taqsir, huwa al-farah, le vide complet en matière éducative. Et je ne veux pas être dur envers nos parents, mais leur ignorance dans ce domaine, masha'Allah, a fait vraiment beaucoup de mal. Nos parents sont venus d'un pays musulman, vers un pays non musulman. Donc, dans ce pays musulman, il y avait un ensemble d'institutions à côté du rôle éducatif qu'ils assuraient eux dans la maison, qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs grands-parents, de leurs parents. Il y avait des institutions comme la mosquée et d'autres institutions qui assuraient aussi un rôle éducatif et qui faisaient qu'il y avait, on évitait beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, nos parents, en venant ici, on reproduit certains schémas qu'eux-mêmes ont reçus de leurs parents. Des schémas qui étaient inappropriés, évidemment, à ce genre de milieu dans lequel on vit, le milieu occidental. Donc la faute aux parents, bien sûr, la faute à la société, l'ignorance des parents concernant les parents ne savent pas, ne connaissaient certainement pas quels sont les droits des enfants vis-à-vis d'eux, les droits que leur donne Allah Azza wa Jal. C'est pas un droit que leur donne les droits de, que vous savez tous. Donc, d'une part, l'ignorance des parents. D'autre part, l'enfant qui est mis entre un père, qui est occupé à travailler pendant des heures, oh, masha'Allah. Une mère un peu dépassée par les événements, un père qui est trop occupé également ramassé pour construire la maison au Maroc. Et construire la maison au Maroc pour qui, quoi? Pour les enfants. Et l'ironie du sort, les enfants ne vont pas retourner là-bas. Illa ma rahimallah wa aqul illa ma rahimallah. Donc, entre un père et une mère qui est, masha'Allah, comme on a fait tant souffrir nos mères et quoi. Alors bien sûr que l'éducation est très importante, et quoi, car c'est elle qui va permettre de sauver nos enfants de cette dérive, qui va permettre de sauver nos enfants min dhulumatil kufr ila nuril hidayah. C'est elle l'éducation qui va donner à l'enfant dès son plus bas âge les armes nécessaires à sa vie d'adulte. C'est elle qui va lui façonner sa aqida. C'est elle qui va construire son comportement. C'est elle qui va façonner et qui va lui apprendre l'ahkam sahiha. C'est elle qui va gérer sa relation à Allah Azza wa Jal, sa relation à lui-même, sa relation aux autres. C'est elle qui va construire son identité de musulman. Al-shakhsi al-muslim ya ikhwa. Sa personnalité de musulman. En rapport, et comment on va construire cette personnalité? C'est en rapport, bien sûr, avec qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'éducation, c'est ses armes aussi et ses limites qui vont lui permettre de faire face aux tentations qu'il va vivre, aux tentations, aux shahawat, aux muharramat qu'il va vivre durant toute sa vie, et particulièrement, et j'insisterai jamais assez sur dans le milieu dans lequel on vit précisément ici. Donc c'est elle, l'éducation, qui va codifier sa relation à Allah, à lui-même et aux autres dans une perspective sociale. C'est elle aussi qui va suffisamment l'armer contre l'afkar ghayr al-muslima. Hein, tout ce qui tourne dans les écoles et tout ce qui tourne yani, dans les médias. Donc la norme de pensée ici, la norme de pensée c'est le comportement qui est majoritaire. La norme de pensée ici c'est pas une norme musulmane, vous l'avez tous repéré. Yani, ça saute aux yeux, c'est pas une norme musulmane. Donc l'éducation c'est elle qui va donner suffisamment d'armes à l'enfant que pour qu'il puisse se préserver des dangers de cette norme non musulmane. Alors la norme non musulmane c'est la laïcité, c'est tout ce qui va avec. At-tarbiya ya ikhwa, c'est elle qui construit les adultes musulmans intègres de demain. As-salihin wa as-salihat, al-mu'minin wa al-mu'minat, al-qanitin wa al-qanitat. Bien sûr, ya ikhwa. Premier titre, l'importance de l'éducation. Bien sûr que l'éducation est importante. Car c'est elle qui construit la nation de demain. Anta fi baytik wa turabbi yani al-awlad wa ana fi bayti wa hakada tamshi al-umma. Donc tu commences par ton éducation, par l'éducation de ton épouse, et ensuite tu grandis le cercle. Donc c'est un point, ensuite deux points, et le cercle avec tes enfants, et l'autre fait de même, et le voisin fait de même, et c'est ainsi qu'on arrive à l'umma. L'umma saliha. Saliha. Deuxième point. Mafhoum al-tarbiya. Que signifie tarbiya? Alors, l'ulama, on dit, ils ont une définition assez théorique. Hiya tanshi'atul muslim wa i'daduhu i'dadan kamilan min jami'i jawanibihi li hayatayn dunya wal akhirah fi dawq al-islam. Donc, c'est préparer le musulman, c'est construire et accompagner le musulman dans toutes ses composantes religieuses, comportementales, physiques, psychologiques, sociales, intellectuelles. C'est le préparer dans toutes ses composantes à faire face à la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Sous quel filtre ? Le filtre de le Coran ou la Sunna Sahih. Donc c'est à la lumière, l'éducation c'est à la lumière donc du Coran et de la Sunna, construire sa relation à Allah comme nous l'avons dit tout à l'heure, aux autres et à lui-même. À côté de notre critique vis-à-vis de notre entourage et de l'incapacité de nos parents à nous donner un modèle identificatoire, parce que l'identité se marque et se construit à travers un modèle. Donc l'enfant va construire sa personnalité, son identité, par rapport à un miroir. Lequel ? Celui de ses proches, de son père. Donc il construit son identité par rapport, le fils par rapport au père, et la fille par rapport à la mère. Là, force est de constater qu'il y a eu une absence totale de modèle identificatoire pour l'enfant. À côté de ça, une critique qui doit être très forte vis-à-vis de, et c'est le point 3, les institutions éducatives. Le mu'assasat tarbawiyya. Alors, vous savez tous qu'à côté de la famille, il existe d'autres lieux où s'exerce l'éducation. Premier lieu, l'école. Alors là, ici, il y a un chamboulement manifeste entre le pays d'origine et le pays, et ici, bien évidemment, parce que dans le pays d'origine, les référents, ce qui est apparent, sont des références musulmanes. Donc l'école, même si elle n'est pas ordonnée suivant un ordre spécifiquement musulman, va donner un message qui est en rapport avec l'islam tabaan. Ici, c'est tout à fait différent. Attention aux parents. Donc l'école va donner un ensemble, donne un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Le savoir-faire, c'est des compétences, c'est savoir lire, savoir écrire, les mathématiques, professionnalisme, etc. Donc un ensemble de savoir-faire. À côté de ce savoir-faire, l'école véhicule un savoir-être. Elle véhicule des comportements. Elle donne des modèles aux enfants. Attention à ces modèles, bien sûr. L'école ne donne pas des modèles musulmans à nos enfants, c'est clair. Vous savez tous d'ailleurs cet exemple de la fille qui descend de chez elle, qui retire son foulard pour rentrer à l'école, et qui avant de rentrer, bon, de peur du regard des autres, de peur de la pression aussi de la direction, et qui rentre à la maison, remet son foulard, sous la crainte, une autre crainte, c'est celle du père et de la mère. Ça, c'est quand les parents sont bien. Donc, un petit conseil ici aux parents, que les parents ne soient pas un rafla, qu'ils ne soient pas insouciants. Que les parents soient particulièrement attentifs à ce qui se passe dans l'école de leurs enfants. Premièrement, qu'ils choisissent bien la moins mauvaise école, parce que je ne vais pas dire la meilleure école, la moins mauvaise école. Et deuxièmement, qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils apprennent. Premièrement, l'emploi du temps, les matières, regardez bien les matières de vos enfants, point par point, surveillez l'horaire des enfants, etc. Mais que ça se fasse de manière douce, sans qu'il y ait trop de force en fait dans votre manière d'agir vis-à-vis des enfants. À côté de l'école, il y a une deuxième institution, c'est Tardawiya, une institution éducative, c'est la mosquée. Là encore, la mosquée a une valeur symbolique intense et très forte, particulièrement dans le pays d'origine, et c'est la différence par rapport à ici. Dans le pays d'origine, dans la mosquée, on apprenait aux enfants un ensemble aussi de comportements, respect des parents, yani, par rapport à Kalamullah, respect par rapport à Kalamullah, par rapport au, par rapport au Coran, par rapport aux personnes âgées, beaucoup de comportements qui sont appris de manière implicite à travers dans la relation de l'enfant à la mosquée. Ici, mashallah, nos parents ont fait un travail monstre, dans le sens où les mosquées en Europe sont fortement présentes. Malheureusement, elles se sont vidées d'enfants et de jeunes. On voit très peu la mosquée qui regroupe et qui rassemble les enfants et les jeunes autour de Taqwallah Azza wa Jal. Donc ici, la mosquée n'a plus su être le relais de l'éducation des parents. Bien que dans ce domaine, son rôle est fondamental. Troisième lieu éducatif, c'est bien sûr la TV, les médias. Là encore, la critique ne peut être que vis-à-vis des parents, vis-à-vis de le rafla des parents, ne peut être que forte. Alors bien sûr, la TV, les médias, les journaux véhiculent encore ici des comportements et éduquent donc nos enfants à un ensemble de comportements. Alors est-ce que ces comportements sont des comportements islamiques ? Là encore, les parents doivent particulièrement attentifs à ce que les enfants regardent dans ces TV. Faites attention au programme. Si les enfants regardent la TV, je ne conseille pas particulièrement aux enfants de regarder la TV, mais si les enfants regardent la TV, que les parents soient présents devant cette TV avec leurs enfants, parce que, encore une fois, cette TV va véhiculer des comportements qui ne sont pas des comportements qui vont servir de modèle aux enfants. Point 3, les institutions éducatives. Point 4, l'enfant. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينسرانه أو يمجسانه. هذا حديث ما شاء الله. يعني Et ça, c'est spécifique à l'islam. C'est-à-dire que tous les enfants, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu géographique, naissent musulmans. Tous les nouveau-nés, et ça c'est spécifique à la religion islamique, tous les nouveau-nés naissent musulmans. Dans toutes les religions, il y a soit une sorte de rite de passage qui fait qu'on va rentrer dans cette religion. Les juifs, il faut naître juif, ils ne rentrent pas juifs. Les chrétiens, il y a le baptême, etc. Et ainsi de suite. Et ce hadith nous donne, premièrement, la grandeur de l'islam, c'est-à-dire que tous les enfants naissent musulmans, et que c'est sous l'action de l'éducation des parents, c'est ce que nous dit le hadith, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَيُنَسِّرَانِهِ أَيُمَدِّسَانِ. C'est-à-dire que sous l'action de l'éducation des parents, les enfants différencient leur parcours. C'est clair ça? Donc c'est l'action de l'éducation. Le hadith nous montre ici l'importance des parents dans le rôle de l'éducation. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal met dans les cœurs le fitra, mais encore il faut savoir la préserver, cette fitra. D'accord? Et peu importe que ce soit dans une famille musulmane ou non, ils naissent tous musulmans, mais si le père n'assure, les parents bien sûr, n'assurent pas le rôle éducatif, Abdullah wa Muhammad wa Abdurrahman n'aura de l'islam que son nom. L'enfant, à côté de cette fitra, voilà donc un enfant qui était dans le ventre de sa mère. Il vit en symbiose totale avec sa maman. Lorsqu'il naît, il continue donc à vivre avec sa mère dans une relation qu'on appelle une relation fusionnelle. La relation bébé-mère est une relation, mashallah, c'est une relation qui va, dès les premiers moments de la vie, établir le berceau d'une éducation future. Il est très important, et la manière dont la mère va pouvoir, est capable de répondre aux besoins de son enfant, des besoins qui sont à ce stade-là physiologiques, c'est les besoins de nourriture, de chaleur, de tendresse et d'amour. La manière et la capacité qu'a la mère à répondre à ses besoins va donc déjà établir une certaine relation positive entre mère et enfant. Il est important donc que le bébé, dès ses premiers moments de la vie, intériorise l'image d'une bonne mère. Entre guillemets, quand je dis l'image d'une bonne mère. Alors la croyance populaire qui fait qu'on dit qu'il ne faut pas répondre aux pleurs de l'enfant pour ne pas l'inciter à pleurer beaucoup, est tout à fait fausse. C'est complètement à côté de la plaque. Et ni la manière dont justement la mère va répondre à ses pleurs, parce que la seule manière qu'a le bébé de communiquer à sa mère, c'est quoi? C'est les pleurs. Ce sont les cris et les pleurs. C'est la seule manière qu'il a de communiquer avec son entourage. Comme si le bébé, à ce moment-là, la manière dont la mère va répondre à ses cris, comme si le bébé, à ce moment-là, faisait l'apprentissage qu'il est capable d'agir sur l'extérieur, sur le monde extérieur. Donc c'est comme si, déjà là, vous voyez, il y a une petite identité qui commence à se former. Comme s'il pouvait agir sur l'extérieur. Plus tard, encore ici, il faudra investir, bien évidemment, cette particularité, dans le sens où, déjà quand il est tout petit, inviter l'enfant à donner son avis, etc., pour justement réveiller son identité et sa personnalité. Lui apprendre en fait qu'il peut agir sur le monde extérieur. Hein. Le bébé, c'est pas un bout de chair qu'on met dans le coin là-bas et lui foutre le biberon, non. Il faut, avec ça, et le message au maire, j'espère qu'il est clair, il faut de la tendresse, de l'amour évidemment, et répondre au maximum aux besoins de son enfant. Je parle bien sûr de la mère, mais le père évidemment est bien présent dans cette dynamique. Donc la relation et la bonne relation mère-bébé prédispose déjà l'enfant à recevoir plus tard une éducation et une bonne éducation musulmane. Alors ça c'est pour le nouveau-né. Alors au cours de sa vie, l'enfant commence à bouger. Il descend, il chipote, il bouge à tout. Il commence à vivre des expériences corporelles, c'est-à-dire que son corps va se mettre contre d'autres choses que le corps de sa mère. Il commence à construire donc son identité physique, hein, à travers ses expériences physiques. Et il commence à grandir. L'âge de 3, 4 ans, ce sont les premiers mots. Et l'accès au langage est très important pour l'enfant. C'est à ce moment-là que s'établit une première communication véritable au sens du langage entre les parents et l'enfant. Et alors là, on a accès à une dimension, une autre dimension en matière éducative, qui est celui de l'échange verbal entre père et mère. Alors là, ya Aba, ya Ummahat, attention à ce que vous dites à vos enfants, car il faut une absolue cohérence entre ce que vous dites de faire à vos enfants et ce que vous faites vous-même. Tu vois, c'est clair ça? Alors l'exemple est classique, c'est le papa qui dit à sa petite fille, qui a 4-5 ans, qui dit de descendre à un voisin qui vient voir son papa et qui lui dit, papa, qui lui dit, dis à cet ami que je ne suis pas là. Hein? Et la fille qui, l'innocence, il y a l'atfal. La fille qui descend, qui dit, papa te dit qu'il n'est pas là. Elle est, tu veux lui apprendre la sincérité et tu es menteur. Qui est fait, ikhwan? Masha'Allah. Tanakhud yani fait tarbiyah. Donc ça, c'est un exemple anecdotique, mais donc faites attention à ce que vous dites de faire à vos enfants, yani, que ça soit cohérent entre ce que vous faites et ce que vous dites de faire à vos enfants. Si vous invitez vos enfants, et quelle heure quand vous sortez, que vous ne sortez pas pour aller au café du coin, que vous allez, yani, pour écouter un das, et que vous allez évidemment pour l'Uqmat al-Aish, ou là pour la prière en commun. Évitez évidemment d'envoyer vos enfants acheter vos cigarettes. Tout ça pour une notion importante, la notion de qudwa, donc la notion de modèle. Tout à l'heure on en a parlé, l'incapacité de nos parents à nous donner un modèle identificatoire. Les enfants n'avaient pas ce modèle vers qui se tourner pour qu'ils puissent un modèle de nos parents. Donc ici, le qudwa, c'est important, c'est une notion qui, à cet âge-là, est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que l'enfant, plus que d'autres âges, l'enfant est particulièrement réceptif à l'éducation. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, particulièrement réceptif à l'éducation, au contraire de l'adolescent et tous les troubles qui s'en suivent. Où là particulièrement, et sous l'action même de l'école, et sous l'action des expériences avec les amis, qui font que l'âge de l'adolescence est reconnu chez les spécialistes ici, chez les spécialistes comme étant une période de trouble, une période de révolte contre les parents, etc. Et où l'on engage déjà l'enfant à ce que, lorsqu'il atteint cet âge-là, à être révolté contre ses parents, etc., etc. Bref, l'enfance, la petite enfance, est un âge particulièrement particulier où l'enfant est réceptif à l'éducation, jusqu'à un autre âge, bien évidemment. Ceux qui ont des enfants ont déjà vécu ça, où l'enfant, le fils, peut imiter son père dans tout geste, dans tous les petits détails, ou faire exactement la même chose, et la mère et la petite fille face à la mère également. Donc il y a une qaïda, il y a une muhimma, kun min as-salihin, يعني باش الاولاد ديالك يكونوا من الصالحين ان شاء الله تبارك هذه مهمه يعني donc une autre règle aussi c'est que l'enfant ne grandit que dans le moule que tu lui présentes toi hein اذا كنت انت من الصالحين et si tu lui présentes un modèle où l'enfant peut s'identifier à ce modèle en rapport avec ce que tu lui dis également يعني l'enfant investit en fait tous ses aspects. L'aspect communication au niveau du langage, mais aussi au niveau de ton comportement. Langage et comportement doivent être similaires de telle manière que ça soit très cohérent pour l'enfant et qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. La persévérance à l'éducation. Al-hasr fi tarbiyah. Qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dans tout le Coran et dans toute la sunna sahiha, yani Allah Azza wa Jal nous exhorte vraiment à éduquer nos enfants dans plusieurs ayats. Wa qala aidan wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha yusikum Allah fi awladikum wa hakada wa hakada wa fi sunnah ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'yatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'yatiha. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كذلك: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. Donc tout ceci pour nous exhorter à beaucoup d'attention à l'éducation, de la persévérance des parents à l'éducation, qu'ils ne soient pas insouciants et bien réveillés dans leur éducation face aux enfants, qu'ils surveillent particulièrement leurs enfants, même si c'est de loin, qu'ils regardent leur emploi du temps. J'y reviendrai jamais assez sur ce qu'ils voient à l'école, bien évidemment, sur leur fréquentation, sur les amis aussi, car un enfant a besoin d'amis, a besoin d'autres enfants pour grandir. Il ne faut pas le laisser, bien évidemment, entre les mains seulement d'adultes. On y reviendra par après dans les conseils que nous donnons aux jeunes couples. Alors je donne, pour pas trop empiéter sur le temps de Adil, qui va nous parler alors ici des droits des enfants, des domaines de l'éducation, et on reviendra plus tard alors sur les conseils éducatifs et sur un ensemble de points dont j'aimerais revenir dessus.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Avant de parler des droits de l'enfant en islam, je commencerai par une petite introduction dont il y a quelques textes que je dois quand même répéter, des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis leur importance dans ce sujet et dans cette introduction. Le premier point, je vais aller un peu vite, c'est que l'éducation des enfants est une responsabilité qui est très très lourde. C'est un premier point dont il faut parler, il faut rappeler à chaque moment à chaque frère et à chaque sœur et à chacun de nous de se rappeler ce titre, que l'éducation des enfants est une lourde responsabilité. Si l'homme, pour réussir à éduquer un chat, il doit apprendre comment dresser ce chat. Alors pour éduquer un enfant qui est un être humain, c'est la chose la plus difficile. Et en lisant les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les textes du Coran al-Karim, il est clair que cette responsabilité est très très lourde, et notamment aujourd'hui. Vu les facteurs qu'il y a dans les sociétés d'aujourd'hui, les facteurs de destruction de cette éducation et de ces enfants, les médias, les écoles, etc., etc. Le hadith que tout le monde connaît, hadith de Ibn Omar, dont il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: kullukum ra, wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé yawm al-qiyamah. L'homme est responsable de sa maison, et l'on sera interrogé yawm al-qiyamah par Allah subhanahu wa ta'ala. La femme est responsable, elle sera interrogée yawm al-qiyamah par Allah azza wa jal pour ses enfants, pour sa maison. Le terme utilisé dans l'islam, c'est le terme al-mas'ouliya, la responsabilité. Al-mas'ouliya, qui est une chose tout à fait différente du mot responsabilité en vérité. Le mot mas'ouliya vient du terme, du verbe sa'ala, interroger. C'est ce qu'on traduit par la responsabilité. C'est être interrogé. Même le mot, déjà, il te rappelle le jour dernier. Il te rappelle le fait que tu sois yawm al-qiyama entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras interrogé pour ses enfants. Tu seras interrogé sur ses enfants, sur l'éducation de ses enfants. Wa kullukum mas'oul. Chacun sera interrogé. Mas'oulun an ra'iyati. Et النبي عليه الصلاة والسلام في الدوزيام تكست اللي إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله سبحانه وتعالى interrogera chacun, chaque responsable يوم القيامة. Il l'interrogera qu'est-ce qu'il a fait de sa mission et de sa responsabilité. L'a-t-il accompli convenablement? A-t-il donné à chacun ses droits? Le père sera interrogé, la mère sera interrogée, le professeur sera interrogé, le mari sera interrogé, l'épouse sera interrogée, le chef d'État sera interrogé. Chaque personne qui a une responsabilité sera interrogée yawm al-qiyamah. Inna Allah sa'ilun kull ra'in 'amma istar'ah, hafiza am dayya hatta yas'al ar-rajul 'an ahli baytihi. Et Allah azza wa jall, comme précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses responsabilités, interrogera le chef de famille, l'interrogera sur sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, de son épouse et de ses enfants, comme rapporte l'imam al-Nasa'i ibn Hibban. Le deuxième point dans cette introduction, c'est de rappeler aussi le rôle des parents. On a souvent des réponses de la part de beaucoup de parents qui essaye de se débarrasser de cette responsabilité et de jeter cette responsabilité ailleurs et de dire que c'est la société qui est responsable, c'est l'école qui est responsable, c'est la TV qui est responsable, mais pas nous. Nous ne sommes pas responsables. On a souvent entendu cette réponse, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met cette responsabilité en premier lieu sur les parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Le texte cité par le frère Hisham, hadith de Abu Huraira, ma min mauloudin illa yuladu ala al-fitra. Ce sont les parents. Les parents qui le rendent chrétien, juif ou autre chose. Le premier lieu dans lequel est né, le premier lieu qui accueille l'enfant, les premières personnes qui accueillent l'enfant, ce sont les parents. Pendant des années, cet enfant reste avec les parents avant d'aller à l'école. Et ceci, c'est un autre problème pour les parents qui, déjà à l'âge de 3 ans, on les voit traîner dans les écoles avec leurs enfants, prendre leurs enfants à l'âge de 3 ans pour leur apprendre, leur enseigner quoi. Vous savez, vous connaissez la réponse. La vision de l'islam, la conception de l'islam, de l'éducation des enfants, n'a pas d'équivalent dans toutes les religions, aucune religion, aucun enseignement. L'islam n'a laissé rien au hasard, entre parenthèses. Chaque chose est bien réglementée en islam, qui est un mode de vie qui gère toute la vie du musulman, dans ce monde et dans le-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, je citerai deux versets. Le premier dans lequel Allah dit ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Il parle de l'enfant, de ce stade de l'enfance. Après avoir cité les étapes différentes de l'embryon avant la naissance, jusqu'à arriver à ce stade de l'enfance, Allah il dit ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé. Et en parlant de cette enfance, Allah subhanahu wa ta'ala, pour déterminer, pour préciser l'étape de cette enfance, on parle de tifl, de l'enfance, à partir de la naissance jusqu'à la puberté. Ça, c'est l'âge de l'enfance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Nur, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et quand les enfants, bien sûr dans le contexte, Allah Azza wa Jal, dans ce contexte, il parle de certaines règles, d'un certain comportement que doit adopter l'enfant chez lui à la maison, avant de rentrer dans la chambre de ses parents, de ses frères et sœurs. Il y a des moments de la journée où il doit demander la permission avant de rentrer. Et ça, c'est une éducation qui est très très importante en islam, sur laquelle je reviendrai par après. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. Ça, c'est la période de l'enfance. À partir de la naissance jusqu'à la puberté, comme le précise Al-Qur'an Al-Karim. L'islam nous a donné toute une série de droits de l'enfant pour ne pas les négliger. Certains sont connus, d'autres pas. Je citerai en premier lieu le point le plus important, parmi les points les plus importants, parmi les droits de l'enfant, même avant sa naissance. C'est le droit de lui choisir ses parents. Le mari doit choisir la mère de cet enfant. Et l'épouse doit choisir le père de cet enfant. Et celui qui fait un mauvais choix, il aura fait un mauvais départ. إذا اختار الزوج أو إذا وقع اختيار الزوج على امرأة سيئة فقد أخطأ طريق تربية الأطفال وإذا اختارت المرأة رجلا غير صالح فقد أخطأت الطريق. Le mauvais départ engendre en général une mauvaise éducation. Le premier droit de cet enfant avant sa naissance, c'est de choisir sa mère et son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le texte rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi, le hadith al-Sahih, « Takhayyaru linutafikum, fankihu al-akfa'a wa amkihu ilayhim. » Choisissez pour vos enfants, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la goutte de sperme. Il dit choisis pour ta goutte de sperme, la personne convenable. À l'âge de, ou bien au stade de la goutte de sperme, il faut déjà choisir la maman, choisir la mère, choisir cette femme qui va éduquer cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un conseil qu'on rappelle chaque fois. Donc, on se marie pour une des quatre choses, la beauté, l'argent, la famille, la religion, la foi, l'iman. Fadfar bilati din tarifat yadak. Choisis l'épouse qui a la foi, qui a la religion, qui a le comportement. Si tu ne suis pas la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu auras négligé le premier droit de cet enfant qui n'est pas encore né. Il dit à la femme et au tuteur de la femme, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si un qui a une foi, il a un comportement convenable, une foi convenable, eh bien, ne refusez pas cet homme. S'il vient demander la main de ta fille ou de ta sœur, ne le refuse pas. Sinon, il y aura un désordre total, général, répandu dans la société. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيمٌ, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier droit. Si je rate ce train, je prendrai un train qui va dans le sens inverse. Je n'atteindrai jamais ma destination. Et ça, c'est un droit de l'enfant de lui choisir sa mère. Comme on rapporte de Omar ibn Khattab, quelqu'un qui vient dire à Omar ibn Khattab que mon fils ne m'obéit pas. Il lui dit que mon fils est aq. L'enfant qui est présent avec Omar ibn Khattab, il regarde à son père, il dit « Ya Amir al-Mu'minin, il dit à Omar, mon père m'a désobéi avant que je sois désobéissant envers lui. Il ne m'a pas choisi la mère convenable. Il ne m'a pas enseigné le Coran. Il ne m'a pas donné un nom convenable. Et maintenant, il demande que je sois obéissant envers lui. » Déjà, le premier pas est raté. La première étape est ratée. On choisit la fille du coin, dans un café, dans un train, on se marie, même pas on se marie au centre, on se marie même pas. On choisit une jeune fille n'importe où, après 4 ans. Copine, copain, on sort avec elle, après ces 4 années, on a un enfant dans le haram, dans l'illicite, et on dit, cet enfant, il ne veut pas obéir à ses parents. Mais de quels parents on parle? De quels parents? Si les frères, alhamdoulilah, et les sœurs sont sur la voie de l'islam, il faut aussi voir des milliers, des centaines de milliers de nos frères et sœurs en Europe qui sont perdus. Des enfants dans le haram, dans l'adultère, la fornication, des filles qui fuguent la maison, des enfants perdus dans les maisons de correction. À cause de quoi? On se marie sans aucune loi de l'islam, aucun principe, aucune éducation. On prend n'importe quoi, on veut réussir l'éducation. Le deuxième droit de cet enfant, et sur ce premier point, je rappelle aux frères et sœurs l'exemple donné par un grand savant qui est mort il y a plus de 8 siècles de ça. Il dit que l'éducation, c'est comme l'éducateur, le père, la mère, le professeur, celui qui a cette charge d'éduquer, c'est comme l'agriculteur. Il doit choisir le terrain pour semer, pour mettre sa semence, il doit choisir un terrain qui est convenable. Ensuite, il doit mettre les graines dans cette terre et doit essayer et les arroser au moment convenable, les surveiller et les débarrasser, éliminer les mauvaises herbes à fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est l'image qu'il a donnée de l'éducation. C'est de choisir la femme convenable et l'homme convenable, l'éducation convenable. Essayer de débarrasser cet enfant du mauvais caractère, des mauvaises idées, etc. Le deuxième droit de cet enfant en islam, c'est de demander au moment des rapports. Et c'est une chose qui est négligée par beaucoup de musulmans, de demander à Allah Azza wa Jal de protéger cet enfant, le shaitan qui est l'ennemi public numéro un, comme on dit. C'est l'ennemi numéro un de l'humanité, de toute l'humanité, et qui a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala de prendre avec lui le maximum de personnes à Jahannam en enfer. Il a juré par la puissance d'Allah Azza wa Jal de prendre avec lui le maximum d'êtres humains en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce dua que le musulman doit dire au moment des rapports, le premier contact entre ces deux époux. أن يذكر الإنسان ربه وأن يسأل الله عز وجل أن يحفظ ذريته. هذا من حقوق الطفل على والديه، لا سيما على الأب، أن يذكر الأب الله عز وجل عند الجماع، عند معاشرته لزوجته، أن يسأل الله أن يحفظ هذه الذرية. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari et Muslim dit: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Beaucoup de musulmans au moment des rapports, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent une cassette, hein, de la musique. Aujourd'hui on dit que la musique repose l'âme, apaise les cœurs. C'est la nouvelle philosophie. Elle apaise les cœurs et dans la tranquillité de l'âme, etc. On met une cassette de musique la première nuit des noces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose à faire, c'est de faire deux rak'at avec ton épouse, de mettre ta main sur son front et lire le dua Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Et de commencer cette vie en tant que croyant musulman. Et avant les rapports, le père doit dire duha pour que Allah Azza wa Jal protège cet enfant dont on veut, maintenant dont on parle. Cet enfant, on parle de son éducation, comment réussir l'éducation, quels sont les droits de cet enfant. Eh bien, il est de son droit de dire ce duha au moment des rapports, avant les rapports, pour qu'il soit protégé par Allah Azza wa Jal contre Shaitan, contre la tentation, contre la mécréance suggérée par Shaitan, contre Shirk, inspirée par Shaitan, il sera protégé. C'est un droit de l'enfant. Au lieu de commencer par Sihr dans nos familles, de commencer par la musique, les chansons, beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes avec les parents. Tu dis, moi je veux commencer ma vie dans le halal, dans la voie de l'islam, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
mais mes beaux-parents me disent, ou bien mes parents, si tu ne mets pas de musique, s'il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de musique, il n'y a pas, etc., eh bien, on ne peut pas faire cette fête. Tu vas encourir la colère de tes parents. Comme on dit dans le dialecte marocain, hasrat harda. Tu seras quelqu'un de masrout alayk, mardoub alayk. Ils te mettent, ils te donnent cette image des juifs, mardoubin alayhim. Et le professeur me dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Tu ne dois jamais obéir à quelqu'un pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième droit de cet enfant, c'est un droit qui est très important pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Avant les rapports, il a un droit. Pendant la grossesse, il a des droits. Après, au moment de la naissance, il a des droits. Après la naissance, il a des droits. Au cinquième jour, il a des droits. Pendant son enfance, le long des années, il a des droits. Jusqu'à la puberté, et on passe à un autre stade où il a encore des droits. Et on parle ici de l'enfance. L'islam a donné à la mère le droit de manger pendant la journée de Ramadan si elle a peur pour son enfant. De manger pendant la journée de Ramadan et de rompre le jeûne qui est un pilier de l'islam et qui est obligatoire, de rompre ce jeûne si elle a peur pour son enfant. Elle a peur de lui faire du mal, elle a peur qu'elle soit affaiblie à cause du jeûne. L'islam, il lui donne l'autorisation de manger, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna allaha wada'a anil musafiri shatra salat » Allah Azza wa Jal a donné cette licence rukhsa aux voyageurs de ne prier que deux raka'at au lieu de quatre. Wassawma 'alil musafir wal murdi' wal hubla. Quant au jeûne, la femme qui est enceinte peut manger pendant la journée de Ramadan si elle a peur pour son enfant. Le quatrième droit de l'enfant, c'est au moment de la naissance. La première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Al-haqq al-awwal alladhi dhakart huwa qabla az-zawaj. Al-haqq al-thani qabla mu'asharat az-zawjati zawjatah bid-du'a. Al-haqq al-thalith lit-tifl athna al-haml, pendant la grossesse. Yahiqqu liz-zawja idha khafat 'ala waladiha an ta'kula fi nahari Ramadan hifazan 'ala ibniha. Al-haqq ar-rabi' وهو بعد الولادة. C'est le quatrième droit. Lequel? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد مولود لأحد الصحابة يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. À la naissance des enfants du Sahaba, on les amenait au prophète صلى الله عليه وسلم pour leur faire دعاء. كان يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم pour leur faire دعاء. بماذا يدعو لهم صلى الله عليه وسلم؟ يدعو لهم بالبركة كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة. Demandez à Allah عز وجل de leur donner la bénédiction, c'est-à-dire le baraka de les bénir. C'était le dua du prophète صلى الله عليه وسلم, comme dit عائشة رضي الله عنها dans صحيح مسلم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة فيدعو لهم بالبركة. Il leur faisait des dua بالبركة. اللهم بارك فيه, اللهم اجعله مباركا, etc. De lui demander, il n'y a pas de formule précise, mais de faire dua et de demander à Allah Azza wa Jal, de prier Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ton enfant. تدعو له بالبركة. C'est une des premières choses à faire pour cet enfant. C'est un droit de cet enfant d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir. Et le prophète sallam, n'oubliez pas, il dit dans le texte authentique, الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. Il ne faut jamais sous-estimer, négliger le dua. الدعاء c'est l'adoration. الدعاء هو العبادة. La deuxième chose à faire dans ce même droit, qui est le quatrième, تحنيك المولود. C'est un droit de l'enfant, comme faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. Dans le même texte que je viens de citer, يدعو لهم بالبركة ويحنيكهم. De prendre un morceau de date, de le mâcher et de prendre une petite partie, de la mettre sur le palais de l'enfant. التحنيك تاخذ تمرة تمضغها تاخذ منها شوية داك الحلاوة وتعملها في الفم ديال الطفل في الجهة العليا من فم الطفل. C'est un geste que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un droit de l'enfant. C'est un droit. Il fait partie des règles de l'éducation de l'enfant. ويقول أبو موسى ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. أبو موسى الأشعري a eu un enfant. Il a apporté chez le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète qui lui donna le nom de Ibrahim عليه السلام. وحنكه بتمرة. Il a pris une date. Il l'a mâché صلى الله عليه وسلم. Il en a pris un morceau et une petite partie, un petit morceau qu'il a mis sur le palais de cet enfant. وَدَعَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ, rapporté par le Bukhari Muslim. Il a fait l'invocation de l'baraka, comme dit Abu Musa al-Ash'ari. Anas, dans une autre histoire, il dit, j'ai pris mon petit frère chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec quelques dates, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit cet enfant, et il me dit, est-ce que tu as une chose avec toi? T'as quelque chose pour lui donner? Et Anas, il dit, na'am, tamrat, j'ai quelques dates avec moi. Fa'akhadha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit ces dates, fa'madagaha, il les a mâchées, thumma akhadaha min fihi, il les a sortis de sa bouche, fa'ja'alaha fi as-sabi, il les a mis dans, il a mis ce morceau dans la bouche de cet enfant, thumma hannakahu wa sammahu Abdallah, il lui a donné comme nom Abdallah. Le troisième droit, bien le troisième point dans ce quatrième droit de l'enfant, c'est de lui choisir un nom convenable. Ikhtiyar al-ism. Hada haqq. Et ceci est parmi les droits les plus importants de l'enfant. De lui choisir un nom convenable. Convenable. Allez, regardez les noms des musulmans aujourd'hui, vous allez être choqués. On n'a pas laissé de mauvais noms sans le donner aux enfants musulmans. Un qui s'appelle Boulkchour, l'autre il s'appelle le Brel, l'autre il s'appelle, je ne veux pas citer de mauvais noms, pire que cela. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, en primaire, et le professeur il faisait l'appel chaque jour, et on entend Boulkchour, présent. Quel nom on choisit Boulkchour? Comment il va grandir cet enfant? Et aujourd'hui, on entend, au lieu de Zakaria, c'est Zak. Mohamed, c'est Momo. Mais chez nous, Momo, c'est pour faire peur aux enfants. Regardez quel nom. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait comme tradition d'éviter les mauvais noms et de changer les mauvais noms. Il a changé beaucoup de noms, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à des sahabis, sahabiyat. Des compagnons qui avaient des noms tels que le nom de Hazan. Hazan, ça veut dire difficulté. Et le prophète le changea en Sahl, facilité. Il changea le nom de son épouse, Barra, au nom de Zaynab, sallallahu alayhi wa sallam. Il changea d'autres noms qui étaient des noms mauvais. Il a changé même les noms de certains lieux qui étaient des lieux, des noms qui étaient mauvais, qui n'ont accepté par l'islam. Comme a fait Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour Hassan, Hussein, d'aller les peser et de voir combien ça vaut en argent, en matière argent, et donner le prix de ce poids d'argent comme sadaqa. Tu donnes sadaqa, eh bien, il y a moyen de donner sadaqa. C'est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un droit de cet enfant pour qu'il soit béni par Allah Azza wa Jal. Et de faire l'aqiqa, d'immoler un sacrifice pour qu'il soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de raser sa tête, c'est un droit de cet enfant. Et de lui faire la circoncision le septième jour si on peut. Sinon, même si on peut, le septième, si on veut le reporter pour plus tard, on peut avant la puberté. Al-khitan. C'est un droit de l'enfant de lui faire la circoncision. Le cinquième droit de l'enfant, c'est le droit de l'enfant à la miséricorde, à rahma. Et ceci est un grand principe en islam. Le prophète n'a été envoyé que rahmatan lil alamin, que comme miséricorde pour toute l'humanité. Parmi les personnes qui ont le plus de droit à cette clémence, à cette miséricorde, ce sont tes enfants. أولى الناس برحمتك أولادك وأطفالك وأبناؤك. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit à ce sujet: من لم يرحم صغيرنا ويعرف كبيرنا فليس منا. Rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres, nous les musulmans, celui qui n'a pas de miséricorde envers ses enfants, envers les petits, envers ceux qui sont moins âgés que lui. Il n'est pas des nôtres. Ce compagnon qui rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser les enfants, il dit: ya Latif, tu embrasses les enfants, drel isra, cette bouche drel isra, wanta, hein? Il a dit: moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un seul. Alors celui-là dit: bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse si tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur? Tu n'as pas de pitié dans ton cœur, qu'est-ce que je peux pour toi? Si tu crois que le fait d'embrasser ton enfant, ça diminue de ta personnalité. وانا اخ وتبارك الله شفنا نلعب مع الدراري الصغار ونضحك مع الدراري الصغار ولا ما تضحكش مع الدراري الصغار يضحكوا معاهم يا اخي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالصبيان. Il était celui qui avait le plus de pitié, de miséricorde, de clémence envers les enfants, comme dit un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم. Le cinquième, bien le sixième droit, c'est le droit de jouer pendant le stade de l'enfant. C'est un droit de l'enfant de jouer. Le fait que l'enfant aime jouer, ça ne diminue en rien la valeur du père, ni l'éducation. Au contraire, ça renforce les liens entre les parents et leurs enfants. Ça rapproche les parents des enfants. Ils font aimer les parents aux enfants. Et on a l'exemple modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez aujourd'hui, vous rentrez dans une maison et tout d'un coup, dans le salon, vous découvrez le père, masha'Allah, un père qui est âgé quand même, et qui sort sa langue et qui joue avec son enfant. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous sortez. Un père qui sort sa langue et qui rigole, il s'amuse, il joue avec ses enfants. Il court dans le salon. Beaucoup de musulmans, ils vont dire: il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, celui-là, j'ai rentré un jour, je suis rentré chez un tel, et j'ai trouvé en train de rigoler, de s'amuser avec ses enfants. Il sortait la langue, il jouait avec les enfants comme un petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il le faisait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur prophète, le meilleur messager, sortait sa langue pour jouer avec ses enfants, avec ses petits, avec ses neveux, Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu anhumah. Yaqulu Abu Huraira, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yudli'u lisanahu lil-Hassan ibn Ali, fayara as-sabiyyu humrata lisanihi. Al-Hassan, quand il voyait la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était rouge, il sautait sur la langue du prophète sallam. Il voulait la prendre avec ses mains. Et le prophète sallam sortait sa langue pour jouer avec Al-Hassan radiyallahu anhu. Et Anas il dit: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yula'ibu Zainab binta Umm Salama wa huwa yaqul ya Zuwaynib ya Zuwaynib. Le prophète jouait avec Zainab, la fille de sa femme Umm Salama. Elle était épousée par Abu Salama. Quand Abu Salama est mort, c'est le prophète sallam qui s'est marié avec Umm Salama. Elle avait Zainab comme fille. Et le prophète sallam, de temps en temps, il allait jouer avec Zaynab. Il disait Ya Zouaynib, c'est un diminutif de Zaynab. Comme on dit en arabe, un verre, kouyes, un diminutif. Il dit Ya Zouaynib, pour s'amuser, pour jouer avec Zaynab, radiyallahu anha. Un compagnon dans Sahih al-Bukhari, Mahmoud ibn al-Rabi'a, radiyallahu anha, il dit Je me rappelle, à l'âge de 5 ans, j'avais encore 5 ans, quand un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un peu d'eau dans sa bouche, il me l'a lancé sur mon visage. Je me rappelle, j'avais encore 5 ans. Comme Cheikh Ibn Hadaba. Le sixième, le septième droit de l'enfant, c'est le droit au respect. Le droit au respect. Et le respect manque beaucoup dans les maisons, dans les foyers musulmans. Notamment entre les époux. Entre le mari et la femme, il n'y a pas de respect. Illa man rahima rabbuk. On se parle que des surnoms, masha'Allah. Entre l'épouse et l'époux, en général, il n'y a pas de respect. C'est une des causes qui casse le plus souvent le couple. C'est qu'il n'y a pas de respect. Le premier mois, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect. Parce qu'il y a encore cette affection. Après quelques mois, ça diminue. Après, ça devient que des insultes et des insultes et que des insultes. Le prophète sallam nous a donné le meilleur exemple concernant le respect de l'enfant. Respecter la vie de l'enfant, respecter la personnalité de l'enfant, respecter les réponses de l'enfant, respecter les questions de l'enfant, respecter sa manière d'agir, sa manière de parler. Il faut le respecter et corriger ses fautes comme ça viendra, inshallah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans une réunion avec les grands compagnons, avec l'ashiyakh, le mashayikh, il y avait des shuyukh, des personnes âgées, qui étaient à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa droite, un enfant. Ala yamini, an yamini rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tifl. Wa an yasarihi, sahaba, mashayikh, ou ashiyakh qui va fissin. Le prophète a pris un verre pour boire. Il a bu. Il a voulu donner à ceux qui étaient avec lui dans cette réunion. Et comme le professeur sallam commençait par sa droite, ça fait partie de la sunna de commencer par sa droite. À sa droite, il y a un enfant. Et à sa gauche, il y a des personnes âgées. Si nos parents étaient, ou bien nous étions la plupart à la place du professeur sallam, on aurait carrément oublié, nié cet enfant, comme s'il n'était pas là. Va chez ta mère. Elle va te donner à boire. Le Rasoul sallam, regarde, le meilleur messager sallallahu alayhi wa sallam, il prend le verre, il dit à cet enfant, regardez le respect. Est-ce que tu permets que je donne d'abord à boire à ces grandes personnes, à ces personnes âgées? Est-ce que tu permets? Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, permets-tu de donner à boire, de donner cette eau d'abord à ces personnes qui sont à ma gauche, qui sont plus âgées que toi? Cet enfant, il lui dit, Wallahi ya Rasul Allah, la uthiru bi nasibi minka ahada. Je jure par Allah Azza wa Jal de ne donner mon tour à personne après toi. À personne. C'est mon droit, c'est moi qui bois en premier lieu. Il a juré par Allah Azza wa Jal qu'il ne donnera son tour à personne. Et le professeur, il ne va pas dire qillat l'hiya. Shkoun li rabbak? Qui t'a éduqué? Abadan. Le professeur sallam, comme dit le rapporteur du texte, fatallahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi yadi. Il lui donna le verre pour boire. Sans commenter. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect des parents pour leurs enfants. Cet enfant, c'est lui qui sera un homme dans l'avenir. Si on ne le respecte pas, si on ne lui donne pas le temps de parler, de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie de faire et de corriger quand il commet des erreurs et des fautes, eh bien il sera éduqué dans un climat de peur et de crainte, écrasé. Eh bien demain quand il sera un homme, il sera humilié, il acceptera l'humiliation. Quand on lui dit « fais », il dit « oui monsieur ». « Sors ». ».« Oui monsieur ». ».« Tais-toi ». ».« Oui monsieur ». Il accepte tout. Il ne peut pas ressentir cette fierté du musulman. Pourquoi? Parce que quand il était encore très très jeune, les parents étaient les premiers à l'humilier et à l'écraser. Ce sont les parents. Alors que le prophète nous donne le meilleur exemple du respect de l'enfant en islam. Le septième droit, c'est le droit à l'enseignement de la religion. حق تعليم الطفل دينه. C'est un droit de lui enseigner la religion et les principes de la religion. À partir des premiers jours de la naissance, l'enfant, on attend, certains frères, ils attendent jusqu'à l'âge de 7 ans pour dire à l'enfant de faire la prière. Naam. Mais l'éducation, elle commence déjà avant. Elle commence au moment de la naissance, même avant la naissance, quand l'enfant, il est encore dans le ventre de sa mère, il entend la récitation du Coran à la maison. Il entend l'adhan à la maison. Quand il est né, il entend chaque fois, même s'il ne comprend rien du tout. Il entend la voix du Coran, la voix de l'adhan. Il entend à la maison que le rappel d'Allah Azza wa Jal, pas de dispute, pas d'insulte, pas de musique. Quand il a encore un jour après sa naissance, l'éducation a déjà commencé. Et je cite, je rappelle toujours l'exemple de cet homme qui a dit à un savant, un penseur musulman, il lui dit, je viens pour te demander des conseils et des recommandations pour l'éducation de mon enfant. Et le penseur, il lui dit, quel âge a ton enfant? Il lui dit, 2 mois. Il lui a dit, 20 ans, c'est trop tard. C'est une manière de lui dire, de lui faire comprendre qu'il fallait d'abord, avant de se marier, il fallait demander. C'est pas trop tard, mais c'est une manière de lui faire comprendre qu'il fallait demander avant. L'enfant, remarquez, celui qui a des enfants de cet âge-là, il remarque clairement comment l'enfant, subhanallah, il fait attention à chaque chose. Quelques mois après, tu pars, il te regarde. Tu fais tomber quelque chose, il va la chercher. Il essaye de toucher, il essaye de regarder. Il est attiré par le bruit, par le son, par la parole, par le mouvement, par les couleurs, par toute chose, il est attiré. Alors si on ne lui donne pas cette éducation à ce moment-là, eh bien, comment il grandira? Quel avenir aura-t-il cet enfant après la puberté, après sa jeunesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un enfant qui mangeait sur la même table que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mange avec sa main gauche et il mange rapidement, chose qu'on voit chez certains enfants de nos frères. Quand il vient manger avec les gens, il voit l'enfant comme s'il n'a jamais mangé. Lui. Là, il ne faut pas dire non, laisse-le, c'est un enfant. Non, il faut l'éduquer, il faut lui dire que ceci, ce n'est pas la bonne manière de manger. Lui dire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet enfant, lui dit, Ya Ghulam, Sammillah, dis Bismillah. Regarde combien de conseils qu'il lui a donné, combien de recommandations qu'il lui a donné. Sammillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yali. Dis Bismillah avant de manger. Mange avec ta main droite et mange devant toi. Mange devant toi. Ne mets pas ta main partout dans le plat. Mets ta main devant toi, mange devant toi, dis Bismillah et mange avec ta main droite. Ce sont des recommandations. C'est une éducation de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux tuteurs et aux parents d'apprendre et d'enseigner à leurs enfants la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et sur 3 ans, plus de 5000 prières qu'il aura fait l'enfant. Plus de 5400 aidées prières. Un exercice de 3 ans, ça fait 5400 et quelques prières, 5 fois par jour. C'est un exercice, vu l'importance de la prière. Si on ne s'exerce pas à apprendre à prier à l'âge de 7 ans, jusqu'à 10 ans, eh bien, après 10 ans, ça devient difficile. Après la puberté, ça devient encore plus difficile. Et des fois, il y a des frères qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à prier et à prier à l'heure. Des frères qui ont 18 ans, 20 ans, ils ne prient pas à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande négligence. C'est pas une excuse, mais il y avait une grande négligence durant leur enfance de la part des parents. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا. Celui qui a appris le Coran avant la puberté, regarde comment il insiste sur le stade de l'enfance. Il dit celui qui n'a pas appris, celui qui a appris le Coran avant la puberté, fait partie de ceux qui, de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse. Il fait allusion au verset cité dans le Coran al-Karim, dans Surat Maryam concernant le prophète Yahya alayhi salam. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Allah il dit que le prophète Yahya, Allah lui a donné la sagesse déjà à l'état de son enfance, quand il était encore enfant. Alors Ibn Abbas il dit, celui qui a appris le Coran pendant son enfance fait partie de ceux à qui Allah Azza wa Jalla a donné la sagesse. Et un autre exemple, c'est celui du Hassan al-Basri radiyallahu anhu, rahimahullah, il dit قَدِّمُوا, il disait قَدِّمُوا إِلَيَّ أَحْدَاثَكُمْ, amenez-moi vos enfants. Il disait ça aux parents. Le grand savant, le Hassan al-Basri, il dit aux parents, amenez-moi vos enfants. فَإِنَّهُمْ أَفْرَهُ قُلُوبًا وَأَحْفَظُ لِمَا سَمِعُوا. Car leurs cœurs sont encore vides, des pages blanches. Et ils mémorisent et ils retiennent beaucoup plus vite que les personnes âgées. Amenez-les devant moi pour leur enseigner, leur donner l'enseignement de l'islam. Et on a aussi un très très bon exemple que je conseille aux frères et aux sœurs de lire dans Sourate Luqman. C'est l'histoire de Luqman. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. L'enseignement, il lui apprend l'aqida, il lui apprend l'iman, les principes de foi. يَا بُنَيْنِ, écoute mon enfant, regarde quelle manière de s'adresser à l'enfant. Il dit pas أَسْمَعْ أَبُو رَاسْ. Il dit يَا بُنَيْنِ, écoute mon enfant, يَا بُنَيْنِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, comme s'il s'adresse à un savant. لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, n'associe personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla.